quand nous parlons, nous sommes je, on s'adresse à tu, toi ou vous, et puis c'est tout. Alors que ce qui le frappait, c'est que les Japonais ont, pour se désigner, pour désigner l'autre, une infinité de vocables et relatifs à la position différente de l'un et de l'autre. Et au fond, il dit, si on ne parle pas à Dieu d'une certaine façon, si on n'est pas un parlant à un autre un, la psychanalyse, ça ne marche pas. Il avait d'ailleurs une autre théorie aussi, qui était qu'on ne pouvait pas psychanalyser non plus les vrais catholiques.
Alors, mais nous y reviendrons un peu plus tard, plus directement sur Jacques Lacan, avec justement Paul-Laurent Hassoun, qui publie un que sais-je ces jours-ci aux presses universitaires de France sur Lacan. Mais auparavant, donc les presque 400 pages du neveu de Lacan chez Verdi et Jacques-Alain Miller, sous le titre de Satire, qui nous donne le ton immédiatement du livre, qui n'est pas sans faire référence, bien sûr, donc au neveu de Rameau, à Diderot, à l'ironie du XVIIIe siècle, à une distance critique, en maniement des paradoxes autour d'un sujet, et quand je pense que l'on dit qu'il n'y a plus de débat en France, mais justement, il y en a bien en ce moment. Alors, sont-ils ou non de haute tenue, de haute teneur, ça c'est plus tard que nous jugerons, mais enfin voilà. Donc un jour, vous avez piqué un coup de sang, Jacques-Alain Miller, parce que vous voyez la première page du Monde, Le Monde, vous voyez, du 21 novembre 2002, consacrée au livre de Daniel Lindenberg, le rappel à l'ordre, et puis vous lisez le livre, vous voyez que vous êtes cité, et là, à partir de là, au fond, vous vous dites, peut-être qu'il faudrait que je fasse une réponse. Alors on y reviendra sur la citation, vous êtes très peu cité. Vous piquez un coup de sang pour deux phrases qui sont en plus plutôt légères. Mais attendez,
c'est vous qui dites que je pique un coup de sang, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça.
On n'a pas bien savoir ce qui vous anime dans ce...
Bruno, alors nous sommes avec Bruno Takels et Ali Badou.
C'est pas un coup de sang, c'est quand même une certaine colère, vous employez le mot à un moment.
Plus tard, sur le moment, c'est autre chose. C'est voir la première page d'un journal comme Le Monde, que je lis depuis tout petit, comme beaucoup.
Vous avez très régulièrement de très bons articles, de bons comptes rendus.
Et voir ce journal donner sa première page à un tout petit livre, que je n'ai pas lu, de quelqu'un dont, en effet, on connaît un peu le nom, mais bon, un petit livre de 96 pages.
Oui, vous citez un page 71, livre peu consistant par son volume, mais immense par sa perversité.
Non, là, quand je dis ça, je cite l'Amenet, et ça n'est qu'un moment de ma considération, oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facettes, si vous voulez. Alors, je vois un objet idéologique non identifié, si vous voulez, dans ce livre. C'est-à-dire, ça me paraît invraisemblable. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans ce livre pour qu'il ait cette première page et qu'on le présente déjà, alors que je n'ai pas lu, qu'aucun de mes amis ne l'a lu, ne m'en a parlé, qu'on le présente comme un objet propre à brouiller les familles intellectuelles. Après tout, moi aussi, je suis une famille intellectuelle, si je puis dire.
Sur la gauche.
Je fais partie d'une famille intellectuelle. Et donc, je me demande, avant d'avoir lu le livre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comme il manque dans la revue que je publie, qui s'appelle Élucidation, il manque une page, il y a une page blanche, en effet, je me dis, tiens, je vais la remplir, je vais prendre un pseudonyme, et je vais écrire sur cette première page du Monde. Et c'est ce que je fais, avant d'avoir le livre. Le lendemain, j'ai le livre. Et je m'aperçois qu'en effet, je suis cité, mais au détour d'une page.
Page 52, Bruno Takels.
Oui, et puis en plus c'est plutôt élogieux, même exemplaire de ce point de vue, est le très intéressant et subtil ouvrage de Jacques-Alain Miller, responsable de la cause freudienne, et qui s'intitule « Lettres à l'opinion cultivée ». Hors de la République des lettres, point de salut.
Oui, je ne me reconnais pas tout à fait là-dedans, je ne crois pas du tout que hors de la République des lettres, point de salut, je suis ravi de parler à la radio, au-delà de la République des lettres, même si ce sont des personnes évidemment cultivées. Et puis, c'est plutôt que la psychanalyse, les analystes, moi-même, nous avons été confinés dans un réduit, et que si on m'offre de parler, de m'exprimer au-delà de la République des Lettres, mais je ne demande pas mieux, et en plus je crois que j'en suis capable.
Alors cela dit, pour revenir au point de départ, donc vous avez, puisque vous êtes encore avec nous, Alain Condot, peut-être que vous pouvez le résumer aussi, cette querelle-là, du point de vue du spectateur que vous avez été, vous avez suivi ça.
Absolument, j'ai suivi cette affaire. Elle m'est apparue un peu exotique, et en même temps comme étant une partie immergée de quelque chose qui est en train de se produire. Je Politiquement, j'ai beaucoup de mal à analyser, parce que...
Je rappelle, donc, le rappel à l'ordre, le nouveau réactionnaire, voilà, Daniel Lindbergh, à la République...
Par contre, moi, je fais partie d'une génération, alors je parle uniquement d'un point de vue de posture artistique ou esthétique. Je fais partie d'une génération où j'ai vu se former des écoles de pensée artistique extrêmement dures, avec des credos très très fermés, que ça soit dans le cinéma, que ça soit en musique, que ça soit en peinture, que ça soit en littérature. Et c'est vrai qu'il y a, maintenant j'analyse à peu près depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, une sorte d'implosion, dissolution, perte, je ne sais pas comment l'appeler, de ces écoles dures. C'est vrai que d'un certain côté, alors je parle très simplement, j'en suis soulagé, parce que ça a été pas des moments faciles, hein, quand même, où il fallait faire ci, il fallait pas faire ça, hein, pour parler très simplement. Et en même temps, inquiet, en me disant, alors, est-ce que ça va être le coup du balancier? Est-ce que je vais me mettre maintenant à défendre des gens qui m'attaquaient avant, et vice-versa? Enfin, j'en sais rien. Donc, on peut prendre ce petit livre aussi de cette manière-là, je crois. Je crois qu'on est en train de vivre, c'est vrai, une sorte de bouleversement culturel assez profond, qui m'échappe, mais qui est certainement significatif.
Et quoi, de redéfinition de famille politique? Ou est-ce que, comme dit, semble le suggérer Jacques-Alain Miller, en même temps, il y a le livre, entre autres, mais enfin, une des thèses importantes du livre, c'est de faire tomber le masque. Hein. Vous dites que, quand même, le livre de Lindbergh, pour vous, il est comme un trompe-l'œil. Quoi. Il s'agirait de dire à gauche toute pour masquer un recentrage à droite d'une certaine gauche, et ainsi désigner ceux qui sembleraient s'éloigner de leurs premières convictions de jeunesse quant à des croyances de politique très à gauche.
Oui, vous me citez très exactement, vous me résumez très exactement, mais c'est par là que j'ai commencé. Et d'ailleurs, à ce moment-là, déjà les éditions Verdier étaient prêts à publier ces 10 premières pages que j'avais écrites. J'ai trouvé que c'était un peu mince, et puis je me suis dit je continue, et puis j'ai continué tous les jours pendant 2 mois, et ça a donné ce volume. Et j'aurais, au fond, c'est eux qui m'ont arrêté pour le publier, parce que sans ça j'étais parti pour continuer, si vous voulez.
Ah oui, comme quoi il y a quelque chose quand même.
Parce qu'il y avait quelque chose. Alors ce qui m'a semblé aussi, c'est que justement parce qu'il y a ce que vous décrivez, mais qui va peut-être plus loin. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'éditeur de M. Lindbergh, qui est M. Rosanvallon, appelle le peuple introuvable, les anciennes représentations ont disparu, qui étaient fondées sur les classes sociales, qui étaient balisées par des figures reconnaissables, bien en place, cultivées par des discours, des collectivités, etc. Il y a justement place pour des opérations de brouillage-recomposition. Et ce petit livre, auquel on a donné un grand écho, mais enfin, le Monde n'a pas été le seul, le Nouvel Observateur l'a fait aussi, et puis tout le monde a pris la suite avec
Pierre Manant, en débat contradictoire, en l'occurrence.
Voilà, tout le monde a pris la suite, évidemment, en prenant des mines de dégoûté du genre « Oh, ça n'est qu'un petit débat parisien bon. ». Mais ça, je le suis, justement. On voit cet argument apparaître et on voit ensuite que c'est l'écho que chacun doit payer pour se mettre à parler de ça. Il faut en même temps le dévaloriser. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionne. Et donc, précisément parce qu'il y a, très jolie expression, ce peuple introuvable, il y a maintenant des groupes de réflexion, des ateliers, ce qu'on appelle à l'occasion du mot américain, think tanks, des équipes de pensée, enfin bon, qui s'emploient à nous préparer de nouvelles représentations sociales. Et au fond, le Lindbergh, ce livre, au fond, c'est vrai que je m'en moque parfois, mais en même temps, je le respecte beaucoup. Je crois qu'il est le fruit d'une profonde réflexion qui n'est même pas seulement celle de Daniel Lindbergh, qui est une réflexion collective, et que on essaye de produire et d'inscrire dans l'espace public de nouvelles figures qui sont très précisément étudié. Et donc, loin de mépriser cet ouvrage, au fond, je crois que ce que j'ai écrit sur cet ouvrage est plus long que cet ouvrage lui-même, ou disons, tout n'est pas consacré à ce livre, enfin, mais ce qu'il a suscité en moi est plus long, parce que il me semble que c'est une opération très minutieuse et appelée à se répéter, à se diversifier.
Alors vous voulez justement, et vous nous l'avez dit même avant de rentrer dans ce studio, répondre au feu des questions. Bah écoutez, ils sont deux, enfin c'est trois avec parler, moi. Qui veut, alors Bruno, Takel, soit Libadou, je ne sais, allez-y, Ali.
Bah comme vous le rappeliez Marc tout à l'heure, justement le livre est sans doute placé sous le signe de Diderot et du neveu de Rameau. Et ce qui est intéressant, c'est que le dialogue que met en place Diderot dans son livre, il l'utilise parce qu'il n'est pas question finalement de d'idées abstraites, d'épistémologie, mais qu'il s'agit d'aller se confronter à un environnement qui est jugé tyrannique. Chose que rappelle Daniel Hindenberg avec effectivement des pressions exercées de toutes sortes. Et il y a toute cette idéologie contradictoire qu'on retrouve chez Diderot et que vous mettez en lumière dans votre livre Le neveu de Lacan. Et ce qui est très fort chez Diderot et que vous reprenez, c'est qu'on voit que les mots et les signes paraissent pour Diderot et peut-être aussi pour vous comme l'émanation de la situation matérielle et sociale de leurs utilisateurs. Et vous vous livrez à un jeu de satire assez amusant quand vous montrez dans l'académie que tel fauteuil est occupé par telle personne qui s'installe dans telle lignée en rappelant donc le prédécesseur. Vous pensez qu'il s'agit de ça au fond, qu'il s'agit de la position de chacun dans l'espace social?
Tout à fait d'accord.
La lutte des places.
Quelque chose comme ça, si vous voulez. Moi, je viens plutôt de la logique. Parce que ma formation initiale est celle d'un philosophe, un professeur de philosophie, qui avait un goût, et qui a toujours d'ailleurs un goût, pour la logique formelle. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est la vérité, justement, ce que j'ai aimé, ce que j'ai adoré. Ce qui m'a concentré, c'était la vérité apodictique, comme on dit, la vérité pour tous, la vérité sans lieu, c'est-à-dire tout à fait le contraire. En même temps, j'ai toujours eu le goût, justement, de ce que vous décrivez très bien, la vérité située ici et maintenant, et c'est pourquoi, au fond, c'est un livre d'actualité. C'est un
journal, il a vraiment la
un journal avec ce que... Bon, il n'y a pas tout ce que je fais dans la journée, bien entendu, mais...
Pas loin. On voit que vous allez au cinéma, que vous aimez Men in Black, que vous allez voir les Spielberg.
Enfin, très bien. Oui.
Il va beaucoup voir les cinémas américains.
Je les mentionne, mais à côté, si vous voulez, de la révérence à la logique, à côté de ce qui est maintenant ma pratique de psychanalyste, en effet... Je suis tous les jours le récit de l'actualité, le roman de l'actualité.
Mais le débat en tant que tel, vous le prenez au sérieux au fond? Vous pensez qu'il s'agit véritablement d'idées contradictoires, qu'il y aurait des idéologies qui s'affronteraient? Ou finalement, oui, on peut ramener ça à une sorte de topographie sociale, pardon, une sorte de carte comme ça, où chacun occupe des places dans des écoles, des chapelles?
Voilà, si vous voulez, là en tout cas, je ne me suis pas mobilisé pour stigmatiser, ni pour écraser, ou pour bâillonner, mais plutôt pour comprendre. Pour comprendre comment cet objet était fait. Parce que, au fond...
Une biographie un peu fictive et arrangée, très satirique, du Daniel Hindenberg lui-même, qui écoutez, chroniquerait, si on vous croit, quasiment au journal de Mickey aujourd'hui.
Je n'ai pas pu m'empêcher.
Une demande d'embauche au journal de Mickey, on attendra qu'il nous...
Bon, écoutez, là, je n'ai pas pu m'empêcher. Ah ben, c'est lui qui explique ça. Il explique qu'il a commencé par la lecture. C'est quand même très drôle, quelqu'un dont toute la France a parlé, toute la France intellectuelle a parlé, comme du dénonciateur des réactionnaires, et qui a commencé à le faire il y a 25 ans, c'est lui qui le raconte. Il a commencé à le faire en tant que stalinien.
Bon,
pourquoi pas?
Kojève aussi se revendiquait comme stalinien, à qui votre livre est quasiment dédié.
À qui?
Alexandre Kojève.
Oui.
Il se revendiquait, lui, comme étant vraiment un pur stalinien.
Peut-être.
Autre époque, dans les années 30,
j'en parle,
d'accord.
C'est pas le même stalinisme. C'est un stalinisme, au fond, qui a intéressé Raymond Barre. Raymond Barre a expliqué en détail que Kojève était son maître, qu'il devait à Kojève son excellente méthode de travail qui lui a permis de rester très longtemps Premier ministre, qu'il savait parfaitement que Kojève se disait la conscience philosophique de Staline.
Oui. Bruno Takels.
Vous parlez de cette volonté de construire de nouvelles figures sociales, politiques. J'ai un peu le sentiment, de mon côté, que derrière cette très belle cartographie, au fond, du monde intellectuel et de ses lignes de partage, ses modifications, ses repliements, dépliements, il manque un peu la sève, quoi. Enfin, je cherche la sève, moi. J'ai cherché le muscle qui venait irriguer tout cela. Il m'a semblé trouver quand même un élément de réponse dans cette quête, au fond, du troisième homme de gauche. Hein. Et vous posez cette question toute simple à un moment. À quelles conditions une gauche de gouvernement peut-elle gagner en 2007? Au fond, ça c'est question simple, mais entre cette question simple et votre cartographie si fine et si sophistiquée, j'ai du mal à trouver les raccords.
Jacques-Alain Miller.
Oui, c'est très gentil de dire qu'elle est fine et sophistiquée. En tout cas, elle est très incomplète, si vous voulez. Elle est faite au fil de la plume. Je vois arriver, je prends les dans les journaux que je lis, c'est pas tout. Là, j'ai fait un petit effort pour en lire un peu plus que d'habitude. Je prends les éditorialistes qui se présentent. J'essaye de saisir ce qu'ils disent. Je m'aperçois, par exemple, que Solaire, ça parlait de ça avant tout le monde et sans dire les noms. Donc, c'est après coup qu'on s'aperçoit de ça. Donc, je les suis au fur et à mesure. C'est exact qu'à un moment j'ai écrit un petit texte que Le Monde, alors du coup, a publié en première page un peu plus tard, qui était Tombeau de l'homme de gauche. Au fond, je leur ai proposé un sujet qui était pratique, des travaux pratiques. À quelles conditions la gauche peut revenir? Et il me semblait que justement elle ne pouvait pas revenir par la voie qu'indiquait Daniel Lindenberg, c'est-à-dire par la définition abstraite de ce que c'est qu'un progressiste, ce que c'est qu'un homme de gauche. Aujourd'hui, il faut arriver à faire avec une hybridation et leur multiplication, ce que d'ailleurs Bernard-Henri Lévy, je le note dans le livre, m'a fait remarquer qu'il avait ce thème-là, l'avait déjà il y a 10 ans frappé en ce qui concernait les croyances religieuses. Donc, je ne donne pas une solution positive, je n'entends pas être un intellectuel organique de la gauche de ce point de vue-là, mais je donne au moins une réponse négative, à savoir n'essayez pas de construire un type idéal de la gauche, parce qu'il n'y a plus de type idéal. Nous ne sommes plus dans une société qui permet la création d'un type idéal, me semble-t-il.
C'est cartographie contre cartographie, pourrait-on dire. C'est-à-dire que la cartographie que vous faites là, elle essaie au fond de démentir ce qui, selon vous, ne colle pas et n'est pas logique, ou ce que cacherait la cartographie Lindenberg.
Se cache, tout est dit, si vous voulez.
Vous parlez de masque quand même. Vous dites que c'est un livre qui avance un peu masqué.
C'est un livre qui a été lu. Il faut croire qu'il y avait quelque chose de masqué, puisqu'il n'a pas été lu, me semble-t-il, comme il aurait dû l'être. Il aurait dû être lu avec plus de respect pour s'apercevoir à quel point il était bien fait. Et que, selon moi, il est si bien fait
comme
dans sa façon...
Comme un petit livre rouge, vous dites, en fond.
Pour sa taille, si vous voulez. Mais non, le petit livre rouge, ça a été plus durable, malgré tout. Non, il a été très bien fait, et je crois que dans sa façon d'être bien fait, il entrait également qu'il soit méprisé. C'est-à-dire que c'était trop clair qu'il n'était pas fait pour qu'on l'admire. Mais il a été. Il a permis d'introduire pendant un temps, mais la chose est toujours là, il a introduit un thème, il a introduit une nouvelle figure, il a introduit de nouvelles questions, dont je ne trouve pas d'ailleurs qu'elles sont absurdes, puisque moi, en tout cas, elles m'ont fait réagir. Il dit, il faut que les intellectuels prennent au sérieux leur responsabilité sociale. Eh bien, comme je le dis dans ce livre, ça m'a assez frappé pour que je m'y mette moi-même.
Ça vous a suffisamment frappé pour que vous installiez ce débat d'idées sur le même plan que celui des générations antérieures, c'est-à-dire que on a l'impression que vous prenez ce livre autant au sérieux que les grandes querelles qui ont agité Raymond Aron, Merleau-Ponty, Lacan lui-même, Jean-Paul Sartre, Queneau ou Bataille. Est-ce que on est sur le même plan? Parce que d'un côté, on a ces monstres sacrés de la paysage intellectuel français,
sont des
et puis
monstres
de l'autre,
sacrés. Mais on vit au présent.
Je vous rappelle que cette semaine, France Culture rend hommage à Raymond Aron et que samedi après-midi, il y aura toute une après-midi entièrement consacrée à Raymond Aron. Le cas Raymond Aron, effectivement, pour vous, n'est pas pris dans une véritable
sainteté. Écoutez, Raymond Aron, il m'a fait passer l'oral du certificat de morale et sociologie à une époque. Il se moquait d'Althusser. Althusser, c'était mon professeur, j'ai discuté avec lui. Et puis, je l'ai croisé souvent dans les couloirs de la bibliothèque de l'école normale. Si vous voulez, c'est avec le recul qu'on voit que c'est leur importance. Mais par exemple, Lacan, on s'imagine qu'il a dominé de son vivant, mais je crois qu'il n'a jamais été invité à une émission de radio, enfin très peu, pour quelques minutes. Enfin, il y a en effet dans les archives de France Culture, il y a quelques petites interventions.
C'est vrai qu'il fallait beaucoup le pirater.
Lacan n'a jamais eu la couverture. Daniel Lindenberg a eu la couverture du Nouvel Observateur, Lacan jamais. Et Lacan, on en a parlé paraît d'ailleurs dans le même hebdomadaire.
Oui, mais ce qui fait l'importance d'une idée, c'est d'avoir justement la couverture du Nouvel Obs. Parce que dans votre journal, vous racontez votre rapport à la presse.
Je ne dis pas ça, mais quand vous dites des monstres sacrés...
Non, mais c'était une formule excessive,
si
sans doute.
Mais disons qu'on a l'impression que le débat d'idées était peut-être plus... Nous faisons avec ce qu'il y a.
On avait l'impression que le débat était peut-être plus profond que ce qu'il est aujourd'hui par tribune interposée, justement. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est surtout des réactions un peu émotives par coup d'éditorial de une de magazines ou de journaux, plus qu'un véritable affrontement d'idées.
Mais, écoutez, je ne vais pas dire que la situation sur le front intellectuel est merveilleuse, et mon ami Jean-Claude Milner...
Gérardier, avec justement, publié...
Qui a été
en septembre.
Très proche de moi pendant le temps de cette rédaction, lui pense que la vie intellectuelle n'existe plus, donc je ne vais pas dire que nous sommes dans une période... Bon, et d'autre part, ça n'est qu'une toute petite partie de la vie intellectuelle que je considère ici, celle qui apparaît, qui transparaît dans la grande presse. Et en effet, il y a toute une autre recherche qui se poursuit par ailleurs. Mais je ne suis pas pour mépriser notre présent. Dans la situation qu'a décrite d'ailleurs Alain Corneau rapidement, enfin de déstructuration, eh bien, c'est une période plutôt passionnante où on est en train de chercher des voies, des recompositions, des reconfigurations. J'ai le sentiment que celle qu'a proposé Daniel Lindenberg à partir des nouveaux réactionnaires n'est pas la plus intéressante, mais en tout cas, en effet, ça m'a fait une surprise. Moi qui suis dû, d'une certaine façon, j'ai toujours pensé rester fidèle à quelque chose et à l'essentiel de mes idées de jeunesse ou de mes sentiments de jeunesse, ça m'a fait un choc de me retrouver classé parmi les réactionnaires. Et comme je l'ai dit, quel était le bon usage, c'était de réfléchir aussi qu'est-ce qui peut, dans ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qui peut, dans la psychanalyse ou chez Lacan, en effet, faire penser ça. Et c'est là que je me suis, que j'ai aperçu ou que j'ai souligné tout ce que la psychanalyse, celle de Lacan, je pense Freud aussi, devait, enfin peut-être... Paul Laurent Assoum, qui est là, dira son avis, sans doute, devait à la posture antimoderniste qui a été celle de la grande littérature française. À cette occasion, je me suis aperçu, c'est vrai, j'ai été althusserien, j'ai été maoïste pendant 3 ans, il y a 30 ans, mais au fond, peut-être que j'ai été tout ça parce que j'étais surtout baudelairien et stendhalien, et c'est le baudelairien et le stendhalien qui a été révulsé à un moment donné par cette définition du progressisme que donne Lindenberg, qui est une définition, au fond, saint-simonienne, une définition industrialiste, enfin, au moins au 19e siècle.
19e.
Et au fond, c'est vrai que l'art du esprit dont je parle, semble-t-il, enfin, est impatiente de ce qui, dans la littérature française, celle du 19e, va du côté de l'isolement social, les poètes maudits, le secrétaire de rédaction de cette revue dit « Combien de temps on va encore nous fatiguer avec Rimbaud, avec Lautréamont, etc. » Et au fond, je n'en croyais pas mes yeux. Quand je suis tombé là-dessus, je n'en croyais pas mes yeux. Mais ça m'a permis aussi de m'apercevoir, au fond, la place que ça avait pour moi, pour la psychanalyse, et de très bien de la mettre en question.
Le livre aurait pu s'appeler Jam Session, hein, d'ailleurs, au demeurant, les jésuites contre les Mao, pour caricaturer un petit peu.
Je crois que c'est...
C'est une boutade. Bruno Tacris.
Il me semble qu'un des enjeux de cette recomposition intellectuelle, au fond, c'est cette notion de droit d'ingérence internationale, qui, à mon avis, fabrique une ligne de fracture extrêmement forte et extrêmement inquiétante et perturbante. Vous reprenez très bien, d'ailleurs, tous les débats qu'il y a eu autour de est-ce qu'il faut faire la guerre dans les Balkans, est-ce qu'il faut y aller, à quelles conditions y aller, et dans quel but, et surtout pour quelle finalité.
Oui,
il me semble que la question de fond, c'est est-ce que l'ingérence est faite en faveur des peuples opprimés, ou est-ce qu'elle est faite pour les opprimer encore davantage?
Oui, là, j'ai commenté un des textes qui est apparu dans la presse à ce moment-là, de Jacques Juillard, qui déplaçait, au fond, le problème sur la question du droit d'ingérence. Bon. D'ailleurs, un certain nombre de choses que je dis là, et j'aurais dû le mentionner, j'ai appris en trouvant un texte sur Internet, un texte de Rémi Broman, enfin le responsable, mais voilà.
René Broman, qui...
René Broman, non, je sais pas. Bon, en tout cas, très intéressant.
C'est René Broman.
Voilà. Et au fond, très d'actualité, si on peut dire. Parce que, alors, la, je me suis aperçu un peu plus tard, je n'ai pas eu le temps de le dire là, que la définition de protéger les peuples contre leur gouvernement et le droit d'intervenir contre ça, en effet, c'est la doctrine constante de ce que vous avez nommé, à savoir des jésuites. C'est une, ça fait partie d'un enseignement et au fond qui les rapproche, il faut bien dire, des positions de gauche, sauf que aujourd'hui, paradoxalement, le droit d'ingérence que réclame si haut Jacques Juillard vers le début décembre est évidemment pris à son compte par Monsieur Bush, ceux qu'ils soutiennent, et on n'entend plus Monsieur Jacques Juillard, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, parler du droit d'ingérence. Et là, nous sommes dans une de ces... On voit à quel point il est difficile de sortir un concept qui tienne jusqu'au bout, si on veut. Et c'est la surprise aussi de Cohn-Bendit, je crois, de s'apercevoir que ce sont les autres qui sont maintenant dans une position révolutionnaire, qui pensent changer l'ordre du monde, reconfigurer le Moyen-Orient, alors que les vieux anciens révolutionnaires sont au fond d'accord avec la sagesse éternelle qui est ou la sagesse immémoriale qui est aujourd'hui représentée par le Vatican, par la vieille Europe. Et il y a un débat, en effet, qui apparaît aujourd'hui en toute lumière, parce à quoi on assiste en fait. On assiste à quelque chose que m'avait annoncé un ami milanais qu'il fréquentait, qui était très bien introduit dans les milieux ecclésiastiques les plus élevés. On assiste à ce qu'il me disait, tu verras, le seul adversaire qu'il y a, réel, qu'il y a en face de Washington, c'est Rome. Eh bien, on assiste à ça.
Et Jacques Lang, récemment, il y a deux jours, par l'AFP, nous apprenions que Jacques Lang réclamait que le pape se serve de bouclier humain à Bagdad, une dépêche AFP de la fin de la journée mardi. Ali Badou.
Je crois qu'on a trop besoin du pape pour qu'il se risque l'aventure.
Justement, s'il y a un fil continu dans votre livre, qui est un ouvrage éclaté, avec des formes multiples, qui ne répond à aucun genre particulier d'écriture, s'il y a un fil continu peut-être... Le journal, mais le dialogue aussi, la satire. Donc si un fil continu, c'est cette phrase, la devise des jésuites, ad maiorem gloriam Dei, pour la plus grande gloire de Dieu, qui revient comme dans tout votre ouvrage. Pourquoi justement faire référence à cet ordre ecclésiastique et à cette figure du jésuite dans cette configuration du débat intellectuel.
D'ailleurs, on discute la traduction. Là, c'est une plus grande. C'est pas au fond absolu. C'est comparatif, si on veut. Oui.
Jacques-Alain Miller.
Oui, la question est arrivée pour moi vraiment est arrivée de la façon suivante. C'est que réfléchissant écrivant sur la façon dont était composé le livre de Lindenberg, à un moment, au fond, il m'est venu l'idée, mais au fond, ce style est très jésuite. C'était rien de plus que ça, selon la définition, au fond, banale du terme jésuite. Et donc j'ai fait plutôt un morceau, j'ai introduit à ce moment-là un morceau un peu burlesque, à savoir j'ai fait arriver comme ça les jésuites, leur histoire, et le fait qu'ils avaient accordé, surtout ce qui me dirigeait, c'est qu'ils avaient accordé beaucoup d'importance à Lacan. C'est-à-dire qu'à un moment, Lacan, comme lui-même le disait, avait été leur dada, et que nous avions allé autour de Lacan à l'école freudienne de Paris, dans les années 60, il y avait 12 jésuites qui étaient membres. Bon. Et au fond, je suis passé à côté. Je me suis pas aperçu que quand vous êtes en face d'un jésuite, quand vous parlez avec un jésuite, vous parlez à quelqu'un, au fond, qui porte avec lui l'expérience de 4 siècles. Parce qu'ils étaient, au fond, en effet, tellement humbles, tellement modestes, et surtout, j'avais le sentiment qu'ils comprenaient beaucoup moins bien Lacan que moi. Et donc, je suis passé à côté de ça, et c'est seulement un moment, un jour, je le dis, le 2 janvier, que je me suis aperçu, à partir de livres que je suis allé chercher dans cette excellente librairie qui est La Procure, je me suis aperçu à quel point ils avaient été présents dans les débats autour de la dissolution de son école par Lacan, qui avait défrayé la chronique à l'époque, et que, au fond, sans que je l'aie compris, ceux que j'avais en face de moi, c'était les jésuites. Donc ça m'a fait, je dois dire, c'est un des chocs que j'ai eu dans... Bon. Et ensuite, donc, ça m'a conduit, et je ne suis qu'en cours, à m'intéresser de plus près à... Donc je me suis trouvé, en effet, un peu le dindon de la farce, je le dis, Et ensuite, eh bien, ça m'a plutôt conduit à lire. J'en suis à ma deuxième lecture des exercices spirituels. Et oui, mais parfaitement. Mais c'est un petit livre, n'est-ce pas? C'est, bon, il va falloir que je le lise.
À lire et à appliquer, surtout.
Ah, ça, c'est plus c'est difficile. À...
Mais justement, qu'est-ce que la psychanalyse a à dire dans ce débat-là? Pourquoi est-ce qu'elle a une voix particulière pour intervenir dans ces questions?
Jacques Alain Meller, et nous allons faire intervenir Paul Laurent Assoun. Jacques Alain
Meller. Oui, enfin, c'est pas parce que moi, à un moment donné, je me mets à écrire là-dessus que la psychanalyse, en tant que telle,
Oui, non, je vois qu'Alibadou vous montre la couverture du livre. Voilà. C'est le neveu de Lacan, il y a quand même vous.
Non, hein, mais ça, c'est le premier mouvement. Oui. Laissez-moi mon premier mouvement. Mon premier mouvement est de modestie et d'abri. Écoutez, oui. C'est Jacques Alain Miller qui écrit là, qui d'ailleurs emprunte beaucoup de déguisements différents. C'est moi qui ai des masques dans ce livre, bien plus que Lindenberg. Je me demande où je suis aussi. Je suis sur la couverture, c'est vrai. Mais à l'intérieur, j'emprunte des masques différents. Sans doute parce que je n'ai pas, sur beaucoup de questions qui sont agitées, je n'ai pas du tout une position arrêtée. C'est en train d'évoluer.
Alors, je crois, si je me trompe, reprenez, le sens du discours réside dans celui qui l'écoute, je crois, a pu dire une fois Jacques Lacan. Alors justement, Paul-Laurent Assoun, vous êtes psychanalyste, vous publiez ce que sais-je sur Jacques Lacan, au PUF. D'abord, le sens du discours réside dans celui qui l'écoute. Vous avez écouté longuement Jacques Alain Miller.
Oui, je crois que la démarche de Jacques Alain Miller, elle est, vous permettrez d'emblée que je reparle de Freud, que je réintroduise dans le débat.
Comme ça, on sera parfaitement lacanien. Moi, je vous cite, citant Lacan, c'est à vous d'être lacanien si vous voulez. Moi, je suis freudien, avait déclaré oui. Jacques Lacan.
Alors, en toute modestie, moi aussi, j'essaye d'être freudien. Et c'est aussi ce qui m'a intéressé foncièrement chez Lacan, on y reviendra. Mais au fond, Freud diagnostique qu'il y a une sorte de symptôme incurable et chronique qui s'appelle le malaise dans la civilisation. Le malaise dans la culture, je ne vais pas revenir sur le débat. Ce qui veut dire que l'idée de Freud, c'est qu'il y a un malaise structurel, monotone, structural, mais que chaque époque réinvente le malaise. Moi, quand je lis Jacques Alain Miller et ses lettres à l'opinion éclairée, et, bon, je n'ai pas lu le dernier ouvrage, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il tente d'intervenir évidemment à sa manière, pas seulement avec Freud, mais sans doute que Lacan est là. Enfin, pour essayer de déterminer comment on peut se positionner, notamment par rapport à une certaine fonction de vérité. La vérité, c'est un gros mot que Lacan a quand même réintroduit en psychanalyse. Hein. Et à l'époque où on est dans cet imaginaire généralisé, il y a un certain nombre de gens... Alors ça aide peut-être d'être philosophe, parce que bon, c'est peut-être la névrose philosophique, c'est quand même de se référer toujours à cette idée de vérité. Mais je crois qu'on réintroduit cette notion de vérité. Il me semble qu'un regard analytique... c'est ça. Enfin, sauf évidemment à détailler, si j'ose dire, le passage de Freud à Lacan, qui de ce point de vue-là est une question.
Enfin, Ali Badou veut nous faire un peu de lecture.
Oui, justement, écoutons un peu Lacan, puisque vous parliez des jésuites, que vous venez parler de la vérité. De Lacan, donc, fonction et champ de la parole et du langage, qui est le compte-rendu d'un colloque rendu à Rome en 1953, où il dit « Même s'il ne communique rien, le discours représente l'existence de la communication. Même s'il nie l'évidence, il affirme que la parole constitue la vérité. Même s'il est destiné à tromper, il spécule sur la foi dans le témoignage. » Au fond, c'est un peu ça dont il s'agit,
Paul-Laurent Assoun.
Tout à fait. Moi, il me semble que Lacan, au fond, peut-être qu'il faut rediscuter du passage de Freud à Lacan, parce que, voilà, moi, je pourrais dire peut-être deux mots de mon rapport à Lacan, parce qu'au fond, moi, j'étais parti il y a de nombreuses années, j'avais fait à l'époque la connaissance de Jacques Alain Miller, avec un point de vue exclusivement freudien. Bon, je lisais Lacan, je croyais pouvoir le comprendre à peu près, je n'en avais pas un usage, si je peux dire, vital. Hein, je pensais qu'au fond, avec Freud, on avait l'essentiel et que le retour à Freud de Lacan était estimable, mais j'avais quelques problèmes, n'est-ce pas, tout à fait basiques. Comment est-ce qu'on passe des pulsions comme ça à la théorie du signifiant? Comment on se retrouve avec l'imaginaire? Ça m'intéressait. Or, quand on s'intéresse à quelque chose, c'est pas une fonction de vérité essentielle. Puis, au fur et à mesure, n'est-ce pas, que j'ai fréquenté l'œuvre de Lacan, j'ai réalisé, c'est pas que j'ai compris, j'ai réalisé, en reprenant chacun des points freudiens, à quel point Lacan, historiquement d'abord, avait une opération capitale, je dirais, pour maintenir l'effet de vérité freudien. En même temps, j'ai toujours été gêné par un certain effet de salade, entre, voilà, un effet de salade théorique qui fait qu'on mélangeait, au fond, la conceptualisation freudienne, qu'on appelle, là aussi on a un gros mot, métapsychologique, et puis d'autre part, un certain nombre d'opérateurs lacaniens. Donc il m'a paru extrêmement important, au fond, d'aider le lecteur à s'y retrouver, hein, en évitant l'écueil fondamental qui était évidemment la vulgarisation. Alors faire entrer Lacan dans l'encyclopédie, c'est paradoxal, parce que rien n'est plus antipathique peut-être que Lacan dans l'encyclopédie. En même temps, ce qui m'a soutenu, c'est qu'au fond, je pensais à Silicette, tu peux savoir, et que sais-je. Alors je me suis engouffré là. Comme je le dis au départ, hein, il ne s'agit pas du tout, je le dis de façon un peu raide, il ne s'agit pas de livrer au Bouvard et Pécuchet du 21e siècle, ce qui serait une sorte de résumé de Lacan. Non. Ce que j'ai essayé de faire...
Écoutons la voix de Jacques-Alain Miller, page 75 du Neveu de Lacan. Oui. Petit éloge des Que sais-je, la célèbre collection des presses universitaires. C'est lui, hein, qui parle dans le lui à moi, sur le mode Diderot. Ce sont en effet tous des livres de 96 pages, précisément. Chacun est vendu 10,50 €. Ils sont donc à la portée 120. De presque toutes... Alors celui-là, il est un peu plus long, oui. Ils sont donc à la portée de presque toutes les bourses, au moins dans le public cultivé. Ce sont vraiment des livres d'éducation populaire. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire avec ce Lacan, Paul-Laurent Hassoun?
Je ne sais pas si ce que vous entendez par... Enfin
c'est ce que Jacques-Alain
appelle par éducation populaire. Moi, voilà, moi, ce qui m'a paru extrêmement important, c'est de montrer l'effet fracassant de réel que représente la position de Lacan, n'est-ce pas? D'une certaine manière, Lacan mérite que sais-je, et que sais-je mérite Lacan. C'était ça mon idée, c'est-à-dire que tôt ou tard, Lacan devait être homologué dans le livre. Alors, je ne dis pas que c'est un événement historique, mais quand même, dans la mesure où que sais-je, j'ai quand même une sorte de repérage comme ça symbolique, ça me paraît extrêmement important. J'ai écrit ce travail d'abord comme une retombée d'un enseignement, enfin, on peut dire d'une vingtaine d'années, où je me suis efforcé concept par concept, à la lueur de l'expérience clinique, de la théorie et de la pratique, de voir comment se faisait la reprise par Lacan de Freud, sans méconnaître les décrochages. Hein, car par moment, Lacan nous indique très bien comment il faut prendre le pont pour passer chez Lacan. Par moment, il nous indique des traverses absolument inédites. Hein. Alors, j'ai tenté d'une certaine manière... vous voyez, j'étais un peu obsédé par le lecteur potentiel, qui est évidemment très divers, entre le néophyte qui ne connaît rien à Lacan, et qui pourrait avoir ici une sorte de skibolette, comme on dit, enfin, une sorte de mot de passe pour rentrer dans ce travail, à condition, bien entendu, d'avoir les références, et que chacun des chapitres puisse être redéployé, et que le chercheur aille voir dans le séminaire ce qui se passe. Parce que Lacan est essentiellement un chercheur. Il y a les écrits, mais il y a aussi le séminaire. Et il est essentiel de voir à quel point cette pensée est vivante. Moi, je suis extrêmement frappé.
Il y a la voix, dites-vous, il y a l'idiolecte, il y a les trouvailles.
Voilà. Alors, c'est vrai que moi, chaque fois que je lis Freud, que je relis Freud en allemand, à chaque fois, je sursaute. Et pourtant, je l'ai lu 100 fois par l'effet de réel extraordinaire. J'ai un autre effet dans la référence à Lacan, plus tardive, je dirais plus, peut-être moins spontanée, mais je suis absolument convaincu que Lacan mérite un lecteur.
Ali Badou.
Il mérite un lecteur et puis il mérite aussi d'être rendu peut-être accessible puisque Lacan, c'est un nom que beaucoup de gens connaissent, peut-être tout le monde d'ailleurs, mais au fond, dont la pensée est très difficile d'accès parce qu'il y a une langue parfois difficile et puis parce que pour ceux qui n'ont pas assisté à ses cours, les textes sont pas accessibles non plus. En fait, il y en a assez peu. Il y a les écrits. Et finalement, pourquoi est-ce que Lacan est apparu comme un événement en psychanalyse après Freud? Pourquoi est-ce qu'il a fait une telle panique dans les milieux psychanalytiques?
Paul-Laurent Hassoun.
Oui, c'est difficile de donner une réponse brève, mais enfin... Écoutez, il n'y a pas tellement de sujets qui prennent la parole avec un effet de vérité et un effet de rapport au réel. Moi, je suis universitaire et je trouve que c'est très important, j'ai la passion de l'enseignement, et c'est très important de transmettre socialement. Lacan n'est pas un universitaire, peut-être même que, enfin, dans sa topique, c'est pas un maître, quoi qu'il ait un effet magistral, c'est prodigieux. Enfin, c'est quelqu'un qui cherche à déterminer, enfin, je le vois comme ça, enfin, obstinément les effets de réel qui se lient à sa pratique. Hein. Il dit simplement qu'il est un psychanalyste. Hein. Alors, il faudrait expliquer, ça serait très long, comment un certain effet de vérité de Freud, colossal, a pu être gaspillé, dissipé, non pas qu'il y a beaucoup de post-freudiens extrêmement importants, mais d'une certaine manière, l'idée de Lacan, ça a été de revenir à l'effet de vérité de Freud. Pour ça, il a fallu un certain nombre de mutations de langage et prendre acte de toutes les mutations de l'anthropologie contemporaine. C'est-à-dire Lacan est...
Et prendre acte aussi des querelles entre diverses écoles de psychanalyse, querelles que connaît bien Jacques-Alain Miller.
Bien sûr.
Est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas du tout pour écrire ce Lacan ?
Bien sûr qu'il faut en tenir compte. Dans la mesure où Lacan est... J'aime pas tellement le terme lacanisme. Lacan, d'ailleurs, voulait pas qu'on parle d'isme. Hein. Et je pense qu'effectivement, il y a un effet historique qui est absolument essentiel. En même temps, j'y insiste, n'est-ce pas ? Il y a trop de discours psychobiographiques sur Lacan. Hein. Il me paraît extrêmement important de revenir à l'œuvre au texte.
Et vous en dégagez très bien.
Pour Laurent Assoun, il y aura des discours biographiques, psychobiographiques. Et puis, au fond, quand Lacan est apparu, tout le monde l'a piétiné. Il a eu un petit groupe autour de lui, dans lequel figuraient d'ailleurs nos amis jésuites. Et aujourd'hui, en effet, il y a dans toutes les collections, pas simplement dans les que sais-je, il y a dans toutes les collections, on trouve Lacan, les Américains veulent comprendre Lacan, et donc il s'agit maintenant d'arriver à faire un autre effet.
Vous n'avez pas lu encore celui-là ?
Pas encore.
Que sais-je ? C'est la page 376 du Neveu de Lacan, Jacques-Alain Miller, qu'on entend là.
Parfaitement, c'est l'air que j'ai écouté à de nombreuses reprises au moment où je rédigeais.
Voilà. C'est le Softly As in a Morning Sunrise, joué cool par le Modern Jazz Quartet.
Voilà, donc c'est pas du tout la colère, c'est au contraire le cool.
Jacques-Alain Miller, le neveu de Lacan, Satire, c'est donc publié chez Verdier. Le Que sais-je consacré à Lacan par vous, Paul-Laurent Assoun, c'est bien sûr aux presses universitaires de France.